89.5 FM Montréal.
Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Rebonjour Palina.
Allô!
Comment vas-tu?
Ah, je vais bien. Je suis inspirée. Je suis entourée de femmes inspirantes. Je suis vraiment très, très contente.
Bon, écoute, moi, je suis curieuse pour continuer sur cette conversation qu'on a avec Marilyn.
Ouais.
C'est quoi, toi, ton rapport avec tes cheveux?
Ouf! j'ai grandi dans une famille majoritairement blanche, outre moi et ma mère. J'ai été dans des familles d'accueil blanches. Je vis au Québec. Je suis comédienne. J'ai travaillé en restauration tout le temps. Tu sais, plein de lieux où, à un moment donné, j'ai appris à dire il faut que je sois le plus caucasienne possible. Dans un de mes textes, je dis « le plus caucasienne sera ». Donc, ouais, ça a toujours été ça, mon rapport. Je pense que... Un truc précis, je vais vous dire. J'ai pas vu mes cheveux afro avant mes 19 ans. J'ai eu un défrisant de mes 7 ans jusqu'à mes 19 ans. Parce que je voulais les cheveux plats, qui volent dans le vent et tout ça et tout ça. Mais tu sais, ça fait comme un abat-jour, finalement.
Des cheveux garniers, comme...
mais tu sais, ça te brûle la tête. Tu fais ça tous les mois. Tu pleures. Après, j'ai commencé au secondaire à mettre des tissages, qu'on appelait des greffes. Ça m'a marqué quand même, cette phrase-là de ce que Marilyn a expliqué, parce que les mots sont forts et n'existent pas pour rien. Pendant tout mon secondaire, des longs cheveux et tout ça. Puis, à 19 ans, je suis partie en Biélorussie pendant un an. Puis là-bas, il n'y a pas de noir. Fait que là, j'avais le choix de genre, est-ce que je vais vraiment m'arrêter de suivre ce que je veux faire, de l'art, de jouer pour mes cheveux? Comme, je pourrais pas faire des tresses qui vont durer un an, là. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je vais pas avoir des tresses après les enlever. Fait que j'ai fait le big shop, qu'on appelle, hein, coupé très, très court pour avoir mes cheveux naturels. Puis, j'ai emmené plein de produits, de crèmes le plus possible, plein d'affaires. J'ai demandé à ma mère qu'elle m'en envoie plus après un certain temps. Puis, j'ai appris avec des tutoriels à regarder. Puis, je pense que j'ai appris à m'aimer, en fait. Mais c'est un processus, tu sais, 19 ans, ça fait 10 ans maintenant seulement. Fait que c'est pas complet, je sais pas. Des fois, tu te sens mal. Des fois, t'as le « not black enough ». Des fois, tu te dis que genre d'être tellement ancré dans le genre afro naturel, 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 que tu manques toute la magie de tes cheveux, de justement ce tissage-là, ces tresses, tout ce que tu as vécu.
Ça devient performatif un peu.
Exact. Mm. Fait que je pense que c'est une évolution.
Ouais.
Puis il n'y a pas de fin. Puis des fois, il y a des insécurités parce qu'on est dans le monde dans lequel on est. Hein, c'est historique, c'est plus que... Il y a eu l'esclavage, on n'avait pas le droit de montrer nos cheveux, on nous obligeait de les raser. Tu sais, ça, on doit en parler. Puis je crois beaucoup tu sais, les traumas intergénérationnels et tout. Puis encore aujourd'hui, en Amérique, il y a des gens qui se font renvoyer des écoles parce qu'ils ont les cheveux naturels, tu sais. Mm-hmm. On est obligé de mettre des lois pour dire « Ah non, ce n'est pas non professionnel ». T'imagines, on est obligé de mettre des lois pour...
Même au travail.
Pour imposer que ce n'est pas non professionnel.
Oui, oui. Ouais.
Donc, ça, c'est mon rapport.
Et est-ce que... moi, ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que aimer ses cheveux, c'est s'aimer soi-même, finalement.
Oui.
Je ne sais pas si cette belle phrase que je viens de dire résonne en vous d'une certaine façon.
Oui. Je pense que Marlène l'a dit un moment donné, c'est qu'on se cache derrière les cheveux. Mm. Puis je trouve que c'est... Je pense que j'en avais moins conscience quand j'étais ado parce que justement, aux trois mois, je changeais de cheveux puis j'étais vraiment fière. Puis je comprenais pas vraiment cette oppression. Puis maintenant, je suis beaucoup plus sensible aux commentaires, aux regards. Pendant la pause, on parlait de notre photo de casting. Elle aurait ressemblé à quoi? À la photo professionnelle qu'on remet aux gens de distribution. Mm-hmm. Mais je veux dire... Il faut vraiment que je prenne une photo à chaque fois que je change de cheveux. C'est comme un devoir supplémentaire, une charge sur nous. Puis en tant qu'adulte, maintenant, j'en suis très consciente. Puis dans les journées où ça va moins bien, où je n'ai pas envie d'être activiste, bien, c'est vrai que ça m'alourdit. C'est pas le cheveu qui m'alourdit, mais c'est les débats qui entourent mon cheveu. Genre, mes cheveux ne peuvent pas juste exister librement.
Ouais, ils sont politiques, hein?
En politique, polémique.
Ouais, politique, polémique.
Polyphonie.
Ouais. Fait que quand tu mets une afro, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est il y a des moments où tu te sens pas d'être activiste.
Ouais.
Fait que tu peux pas juste exister avec tes cheveux naturels dans l'espace public.
Ah non.
Et ouais, c'est fou, hein. Ouais. Comme, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi ou est-ce que c'est le regard des autres
c'est
qui te renvoie
que
ça?
Que je vois, que ouais. je ressens. Mmh. Je sais qu'il y a certains lieux, si je vais avec un afro, c'est un statement, tu sais. Que comme, sur quoi on se concentre, qui tu rencontres. Est-ce qu'ils vont écouter ce que je vais dire ou ils vont juste voir que j'ai un afro autour de la table?
Ouais.
C'est de moins en moins pire. Mais je dirais, surtout dans les arts, tu sais, je pense que maintenant, si je dois douter de sortir mon afro à une entrevue, ben, je ne vais pas aller faire l'entrevue. Il y a quelques jours, je me préparais pour cette conversation-là, puis je réalisais justement que j'ai travaillé beaucoup en restauration, puis à chaque fois, je m'attachais les cheveux. Mm-hmm. Puis c'est les cheveux que j'avais au travail, puis pas avant le 3 mois que tu es sûre d'avoir la job, je ne vais pas sortir l'afro, tu sais. Mais je réalisais que dernièrement, là, cette semaine, j'ai fait une entrevue, puis j'avais le gros afro sorti. Puis j'étais comme, si ça... Ça empêche que j'ai la job, mais je ne veux pas travailler là. Je ne veux pas travailler là. Donc, oui, ça change. Puis c'est différent dans chaque lieu. Tu sais, je pense à des camarades qui sont qui travaillent en juridique, qui travaillent en médecine. Comme, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils ont cette même liberté de leurs cheveux? Je ne suis pas certaine.
Mm.
Ceux qui travaillent en politique, tu sais, on voit tout ce que Catherine Dorion qui a une chemise, imagine le cheveu afro, comment c'est une insulte.
C'est sûr. Et toi, Marilyn, est-ce que t'as déjà ressenti qu'en ayant les cheveux soit rasés, soit naturels, c'était comme pour toi, t'es juste jolie, puis t'es sortie, puis mais pour les autres, c'était vraiment gros statement politique.
C'est politique malgré soi.
Oui.
C'est politique malgré soi et comme Paulina a dit, en ce moment, c'est comme si ça s'améliore dans le milieu des arts, mais moi, j'ai remarqué, on dirait que pour moi, l'afro, maintenant, dans le milieu des arts, si ce n'est pas politique, c'est genre
exotique. Oui, je m'en allais vers là.
Il y a comme une énergie qui vient avec ça. C'est comme, oh, wow! Marilyn! Allô!
Est-ce bien toi?
C'est beau! Hein?
T'es donc bien courageuse!
Mais un peu trop! Puis je suis comme, mais là, on serait très bien, toi et moi, que je me suis. Ça se peut là, que je me suis pas si peignée que ça. Puis que c'est pas très c'est correct, là. Mm-hmm. Je veux dire, je suis juste sortie. C'est comme une coupe de lendemain de veille. Là. C'est beau, mais c'est pas si beau. Mais là, on dirait qu'on
rentre... C'est une œuvre d'art.
On rentre dans du politiquement correct de... J'aime ça, c'est... Ah, il y a une énergie... Ouh, ah! Puis je suis comme, mais là, on se calme, là. on va se calmer. Donc, oui, je le ressens. Je le ressens beaucoup. Et tu vois... Moi, dans le milieu des arts aussi, ce qui me stresse, peut-être ça va nous partir sur une autre conversation, parce que autant dans ma pièce que dans la vie, j'ai besoin qu'on voit de plus en plus le cheveu afro, juste l'afro, sans artifice, dans les écrans, à la télé, tout ça, parce qu'en ce moment, oui, on s'ouvre à la diversité et c'est beau, mais on s'ouvre à une diversité qui a de très, 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 très beaux cheveux.
Oh.
Et ça, je trouve ça extrêmement effrayant, angoissant pour la génération, par exemple, si on prend des enfants acteurs ou qui se voient à la télé, mais qui se voient, puis après ça, on ne va pas se lancer dans du colorisme, là, mais qui se voient dans une certaine teinte.
Une chose à la fois.
Oui, oui, c'est ça. Pas tous les on ne va pas tout régler en ce jour. Non, mais tu sais, qui se voient dans une certaine teinte, puis avec une certaine texture de cheveux.
Mm-hmm.
Et ça, je me dis, oui, ce sont des... On a de la représentativité, mais jusqu'à quel point on est inclusif ou qu'on ouvre la porte à quelque chose de plus, entre guillemets, normal ou commun, genre, je sais pas, tu sais. Il y a quelque chose de... C'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté noire? C'est la beauté noire qu'on accepte, puis après ça, il y a les autres. Puis j'ai de la misère avec ça, dans le milieu des arts. On est dans sur une... On est sur de la glace en ce moment, je trouve.
C'est comme du bon et du mauvais entremêlés.
Du bon et du mauvais.
Du bon noir.
Ouais.
Tout mouvement qui comme pourrait prendre un 180, là, tu comprends? Ouais. Puis je suis comme, oh, OK, mais peut-être pas, finalement.
C'est ça. Non, merci.
Ouais.
Est-ce que t'as constaté ça aussi, Paulina?
Ah, mais c'est sûr. Puis je sais même pas si je suis la bonne noire, hein, dans tout ça.
Le but, c'est qu'il y en ait pas une.
Comme pour moi, puis je le recherche pas non plus. Je pense, Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'en tant qu'artiste, quand on ne le recherche pas, ça nuit notre salaire. T'sais. Fait qu'on se demande juste à quelle limite on se doit d'accepter. Parce que des fois, tu acceptes pour quel contrat, OK, parfait, le lycée, OK, le perruque. C'est pas un jugement, mais c'est juste que quand tu réalises que pour tous tes contrats qui sont en grosse cote d'écoute et tout ça, qu'on te met la perruque tout le temps, qu'on te met, qu'on va te mettre des belles tresses tout le temps, mais que le cheveu naturel, quand je me réveille le matin, j'ai un bonnet. Est-ce qu'on le voit maintenant à la télé? Est-ce qu'on voit le moment qu'on va faire le tissage, le moment qu'on va faire les tresses, le moment du wash day? Tu sais, moi, je trouve que maintenant, on en voit de plus en plus dans les émissions, mais on voit juste le moment où c'est genre pretty, genre. Puis c'est ce que j'ai aimé dans les météoriques, pour revenir à notre première entrevue qu'on avait avec Nadia. On voit les petites filles qui sont là, leurs cheveux de façon vraiment naturelle, qu'on se lève le matin. C'est pas une peignure plus extraordinaire que la normalité du tous les jours, du commun de tous les jours. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. On voit quand ils se font tirer les cheveux. Et, on a tout ce moment-là, on l'a ressenti dans notre corps. Et on voit le moment où elle essaie d'aplatir et tout, et ça remouille. C'est ça, c'est le quotidien de tous les jours. Je veux pas juste voir le moment où tu sors du salon que ça t'a coûté 200 $ minimum. Je veux pas juste voir ça.
Puis pour rajouter à ça, c'est comme si dans l'univers télévisuel au Québec, tu peux avoir les acteurs, les actrices caucasiens, caucasiennes qui apparaissent, puis tu sais, cheveux tout défaits, un petit peu tout croche, c'est beau. Mais nous, quand on apparaît à l'écran, on est en mode défilé de mode tout le temps. C'est comme on peut pas juste, on se réveille, puis je sais pas trop ce que je fais avec ça ce matin, tu sais, c'est comme ça n'existe pas.
Maquillée, puis
mettons, dans le processus des météorites, moi, c'était quelque chose de comme très, très, très crucial. Puis on avait genre deux coiffeurs, Anne-Sette. Donc, on avait un coiffeur qui aidait pour tous les cheveux, évidemment, de tous les personnages. Mais j'avais aussi une coiffeuse spécialisée, genre black, qui faisait les cheveux des filles. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est important que comme les filles, elles aient leur afro, genre most of the time, un afro un peu pêle-mêle, pas un afro genre parfaitement défini, genre juste un afro que tu t'es levé le matin, tes cheveux sont un peu croches. Genre, qu'il y a des moments où il y a des petits pompons avec plein d'élastiques de couleur, comme que nos mamans nous faisaient peut-être quand on était plus jeunes, qui étaient aussi des moments où les cheveux sont défrisés, qui était la progression des cheveux défrisés aussi, qui à un moment donné deviennent de plus en plus poufy, qui était... Fait qu'il y avait comme énormément de hairstyles très différents dans la série. Puis c'était quelque chose, mettons, que mon assistant réalisateur me disait, tu sais, c'était compliqué à tourner comme ça, parce qu'en fait, mettons, le matin, on commençait avec une scène où est-ce que les filles ont un afro. Là, la deuxième scène qu'on tourne, genre une heure plus tard, les filles ont des tresses. Là, une scène après, les filles doivent avoir les cheveux lissés. Fait que là, mes coiffeurs, ils capotaient, là, ils lissaient les cheveux. Après ça, la scène d'après, c'est genre afro. Fait qu'il y avait peut-être 500 gens de coiffeurs par jour, tu sais. Puis c'était comme un gros, gros, gros travail de coordination, mais c'était excitant aussi, tu sais. Les filles se faisaient changer les cheveux constamment. Et il y avait comme aussi une beauté de genre, oh mon Dieu, les costumes, tout change. Fait qu'il y avait quelque chose de vraiment excitant à justement comme profiter de tout ce que nos cheveux nous permettent de faire. Mais il fallait comme avoir l'écosystème de faire ça. Puis j'avais des productrices noires aussi qui comprenaient c'était quoi. Oui, mais c'est très... Puis je trouve ça vraiment bon ce que vous avez dit par rapport à les fois qu'il y a comme des personnes de couleur à l'écran en ce moment, ben elles ont des cheveux très comme bouclés, super, les baby hairs super parfaitement faits et tout. Puis comme, ben c'est vrai que ça peut mettre aussi une pression de genre, si tu gères pas ton cheveu afro de cette façon-là, c'est peut-être moins beau. Là, j'ai mis des guillemets, là. Mais donc ça, c'est une pression qui est quand même là aussi.
Tu prends pas soin de toi.
C'est ça. Ça envoie une image tout de suite. Mais pour revenir à ce que tu disais, Marilyn, sur le côté waouh, dès que tu... C'est ça. Dès que tu as une afro, est-ce que tu y verrais de la fétichisation?
Absolument. Bon. Ben, tu sais, en même temps, tu sais, mon show, aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. Mais oui, il y a de la...
Tout est lié.
Oui, tout est lié. Il y a de la fétichisation, parce qu'on dirait que aussi on a tellement été conditionnés à faire autre chose, tu sais, à se cacher, que maintenant qu'on ne se cache plus, c'est waouh!
Tu étais donc comme ça?
Mais tu sais, la fétichisation, elle est tout le temps là. Tu sais, comme peu importe, tu peux pas... J'ai l'impression que tu peux pas gagner, tu sais. C'est que tes cheveux sont naturels, waouh! Tu t'accommodes à ce que les gens veulent. Ben là, waouh! Après ça, tu mets un foulard pour les cacher. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Tu sais, il n'y a pas de manière de gagner. Mais encore une fois, dans le show, tu peux te camoufler, tu peux les cacher, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce qui est là sous ta tête, ça ne ment pas. T'sais, les gens en veulent tout le temps, tout le temps, tout le temps plus. Parce que je pense que aussi les femmes noires, brunes, métisses, on nous pousse à une limite de... c'est quoi ta limite? Jusqu'où on peut aller avec sa force, avec sa malléabilité, avec ce qu'elle peut, sa manière de s'accommoder puis de s'adapter à tout? Jusqu'où on peut la pousser?
C'est
vrai,
ça.
On est souvent là-dedans. On est souvent là-dedans. Là, on va la pousser au maximum, voire... Mmh. Puis on le prend sur nous, mais ça, c'est du trauma générationnel. C'est dans notre sang, on se dit oh, « je peux », tu sais, mais des fois, on ne veut pas.
C'est ça.
Des fois, comme aujourd'hui, on arrive au studio, pas maquillée, puis on l'accepte parce qu'on sait dimanche. Il y avait une tempête, là, il n'y a plus de tempête, là, il pleuvait, puis on a dit « Hey, tu sais quoi, c'est ça qui va être ça, mais je suis quand même belle là, aux gens qui écoutent. » Mais, tu sais, on décide que non. Puis, tu sais, pour relancer la conversation, mettons, par rapport aux cheveux, à quoi ils ressemblent. T'sais, moi, j'ai rasé ma tête deux fois. Là, en ce moment, je suis plus dans la coupe, les côtés de mes cheveux rasés. Mais t'sais, dis-toi aussi, il y a la perception des autres par rapport à ça. Moi, j'ai décidé, hey, je me sens bien avec cheveux rasés sur le côté. Mais moi, depuis que j'ai fait ça pendant la pandémie, le nombre d'offres de casting de non-binaires, queer, lesbiennes, je les reçois toutes. Je les reçois toutes. Et ça ne me met pas... Ça ne me dérange pas, mais il y a comme une espèce de notion de moi, je ne m'identifie pas à ça nécessairement, mais d'avoir aussi des gens autour de moi qui s'identifient à et n'ont pas accès à ces auditions-là. Mais là, on rentre dans de la fétichisation de... On va cocher plusieurs cases de noir, femme, ethnicité... Ça, c'est fou.
Et que t'es plusieurs quotas en même temps.
Absolument. Puis là, c'est comme le festival du quota. En ce moment, c'est le festival. Oui, mais c'est comme si que dans l'imaginaire franco-québécois, c'est impossible.
C'est cher, hein?
Je vous laissez-moi vous dire, le tag a un très gros chiffre. Mais c'est comme si... Mais ça, c'est... Après, on parle culture, mais on parle Québec, mais on est toujours un peu 15 ans en retard. T'sais, on est en retard sur Toronto. Toronto est en retard sur les États-Unis. C'est spécial, mais ça, c'est la culture ici. Fait que, je vous partage des choses.
Non, mais c'est très édifiant. Moi, je pourrais parler, je pense que nous toutes, on pourrait parler de ce sujet-là. Ah, des heures et des heures, mais hélas, dernière petite question. Est-ce qu'on peut s'émanciper finalement de ce regard des autres ou est-ce qu'on doit composer avec, concernant nos cheveux?
Moi, je pense que oui, il faut juste...
Oui, pour s'émanciper, oui, pour...
S'émanciper du regard des autres, on fait ce que l'on veut, ouais. Tout simplement.
Mais c'est comme si, tu sais, pour revenir au fait que les cheveux soient politiques, qu'on le veuille ou non, c'est comme si, même si nous, on s'émancipe, on sera toujours... Bon, agresser, c'est un grand mot, mais comme on sera toujours la cible du regard des autres, et ça va être comme un poids, même si toi-même, t'es libre dans tes choix, donc qu'est-ce que sans interrogation.
Ben, on ouvre la conversation. C'est ça. On ouvre la conversation, on fait le travail avec nous-mêmes pour justement être bien avec notre cheveu, pour comprendre notre corps, comprendre notre propre bagage, notre propre trauma aussi qu'on carry, qu'on porte avec nous. Tu sais, en tout cas, pour moi, Aphrodisiaque, ça a aussi été si on ouvre la porte pour parler du cheveu afro comme ça, puis de la texture, puis aussi des différents niveaux, parce que la pièce parle de comment justement cette texture-là a une incidence, une influence sur comment les femmes noires, brunes et métissées sont traitées et perçues dans la société. Mm-hmm. Donc là, on a une échelle, c'est pas pareil pour tout le monde. Puis ça, il faut le réaliser, il faut le comprendre. On vit toutes la même chose, mais pas à des niveaux différents. Mais d'ouvrir cette conversation-là, après, justement, par rapport au regard, ça ouvre la conversation sur les juifs hassidiques qui portent leur perruque. Ça ouvre la conversation... Est-ce que tu comprends? Oui, c'est comme ça ouvre la conversation sur les femmes voilées. Ça ouvre la conversation sur pourquoi on fait ça, tu sais? Fait que c'est vraiment... C'est un large sujet, puis ça tombe dans un entonnoir à un certain point. Mais je pense qu'il faut ouvrir la conversation, il faut en parler. Il faut continuer de justement créer des espaces, créer des œuvres qui font qu'on se pose des questions. Mm-hmm. Puis avec les 3 ans qu'on a fait, genre le show, après ça au Zoufest, après ça en tournée, il y a tellement de gens différents qui ont vu le spectacle et qui ont été touchés de manière à différents niveaux, que ce soit des personnes blanches, caucasiennes, asiatiques, latinas, anglophones, francophones, noirs, hommes, femmes. Tout le monde a été touché d'une manière ou d'une autre, tu sais. Mm-hmm. Donc, et autant des femmes qui ont une 50aine d'années qui viennent me voir, « Oh mon Dieu, moi aussi, je ressens beaucoup de lourdeur depuis longtemps. J'ai envie de me sortir de ça, de faire le processus. » Ou des jeunes, des ados, des enfants, tu sais, qui vont aller chercher autre chose. Mais je pense qu'on ne peut pas se sortir du regard de l'autre, mais nous, on peut s'en sortir pour nous-mêmes, pour notre propre tête.
Ouf! Très beau jeu de mots. Comme mot de la fin.
Plus, j'avais même pas compris. Tu vois comment je suis tellement connectée avec moi-même. J'ai fait le jeu de mots sans m'en rendre compte. Bon. Oh, qu'elle est drôle. Elle est comédienne aussi. Elle est comédienne. Oh mon Dieu.
Merci beaucoup, Marilyn Chéry, oui. Comédienne, dramaturge, pour cette belle discussion autour du cheveu noir. Merci beaucoup, Palina, d'y avoir participé.
Un plaisir.
Merci beaucoup, Nadia, aussi, d'y avoir participé. Merci à toutes autour de la table. On va faire une pause et puis s'écouter au niveau de Aya Nakamura, car pourquoi pas. Et puis on se retrouve juste après pour un peu de littérature.
Aïe, 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 avec moi tu veux des aïe, aïe, aïe. Tu veux trop jouer, mais prends tes gardes. La grande Nakamura est trop loin. La pagaille dans ton cerveau, bébé. J'ai le truc qui t'a mis en PLS. En fait, toi et moi, on était pépères. Mais c'est toi qui as tout gâché, gâché. J'suis quelqu'un qui mérite un peu qu'on lui donne du sien. Qui mérite en vrai que du 100%. Avec moi, t'as tout qui reste en douceur. Hey, hey, hey. J'suis son chaud, chaud, chocolat. Chaud, chocolat. Il veut goûter qu'à la plus sucrée. Moi c'est le haut niveau. Tu savais pas que je suis le haut niveau. Tu voulais me comparer aux autres. Mais moi c'est le haut niveau. Bam bam, tout d'un coup le bouquet love. Le plan c'était sans jamais. Bam bam, tout d'un coup le bouquet love. Il voulait me cadenasser. Ça n'a que moi, on s'est dit vas-y j'en ai assez. Besoin d'un bonbon qui te fera voyager. C'est maintenant ou jamais, le monsieur veut tout casser. J'suis pas dans les semblants. J'suis quelqu'un qui mérite un peu qu'on lui donne du sien. Qui mérite en vrai que du 100%. Avec moi t'as tout qui reste en douceur. J'suis son chaud, chaud, chocolat. Chaud, chocolat. Il a tous les goûts, j'suis sa préférée. Tu le haut niveau, tu voulais me comparer au sol. Mais moi c'est le haut niveau. Retour, il faut que tu fasses doucement avec moi. Surtout, faut que tu fasses par les sentiments. Je suis son chat, chat, chocolat. Chat, chocolat. Il a tous les goûts, je suis sa préférée. Il veut goûter qu'à la cuisine. Moi c'est le haut niveau. Tu savais pas que je suis le haut niveau. Tu voulais me comparer au sol. Mais moi c'est le haut niveau. Moi c'est le haut niveau. Tu savais pas que je suis le haut niveau. Tu voulais me comparer au sol. Mais moi c'est le haut niveau.
Alors, j'ai laissé échapper quelques indices plus tôt en disant qu'on allait parler du MeToo. On allait parler de féminisme intersectionnel. Mais je sais que tu nous réserves d'autres surprises encore dans tes suggestions littéraires. Bonjour Jessica.
Bonjour Malia.
Comment tu vas ?
Très bien, et toi ?
Ça va très bien. J'ai hâte d'ajouter certains des livres dans ma liste de lecture, donc je te laisse la parole.
Ok. Alors, le premier, c'est un essai de Amélie Pineda, que reste-t-il de hashtag moi aussi, les secousses québécoises d'un mouvement planétaire. Donc Amélie Pineda, c'est une journaliste généraliste québécoise qui a un penchant pour la politique municipale et les affaires judiciaires, puis elle exerce au devoir depuis 2017. 2017, écrire sur les violences sexuelles, bof, dans les médias, la loi du silence, tout ça, tout ça. Puis, mais 2017, c'est aussi hashtag MeToo, qu'on attribue en Amérique du Nord beaucoup à Alyssa Milano et son célèbre tweet, alors qu'en fait, le mouvement existe depuis 2007.
Exact.
Avec Tarana Burke,
exact.
Qui est une femme afro-américaine, travailleuse sociale, qui voulait dénoncer les violences sexuelles qui sont faites aux personnes racisées et minorisées. Mmh. Puis au Québec, la vague hashtag moi aussi, elle arrive avec les enquêtes de la presse et du devoir. voir le 18 et 19 octobre. Parce qu'elles ont révélé les accusations de victimes à l'encontre de deux géants du monde des médias, donc des choses vraiment qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, Gilbert Rozon et Eric Salvay. Donc Amélie Pineda, elle va se lancer en fait dans la couverture de cet événement-là. Ça va durer plusieurs années, puis surtout ça va transformer sa carrière. Donc le but du livre en fait, c'est de couvrir ces cinq années, donc de 2017 à 2022. Le livre est sorti en 2022, d'un sujet dont personne ne voulait ou n'osait parler, patriarcat, tout ça. Et donc elle va documenter le mouvement, sa matérialisation, mais aussi son évolution au Québec. Donc, elle rencontre des hésitations des victimes, de leur décision de parler, de la force du groupe, parce que quand elles sont toutes seules, elles n'ont pas envie de parler, mais quand elles sont en groupe, les femmes, elles se rendent compte que, elles se sentent peut-être moins vulnérables aussi. Des répercussions que ça va avoir, des limites de la justice qu'on connaît encore, mais aussi des limites du travail journalistique. On ne peut pas publier, on ne peut pas dire ce que toutes les victimes ont vécu. On est obligé de corroborer leurs propos. Il y a des choses qui vont rester dans l'ombre, et puis il y a des choses qui vont être aussi révélées par les journalistes. Donc ce qu'on comprend aussi à travers l'essai, c'est que la justice, elle est là pour sanctionner, alors que les victimes, ce qu'elles veulent, c'est guérir. Elles veulent avancer, et puis il y a une espèce de décalage en fait, entre ce que le travail de la justice permet d'accomplir, puis ce qu'elles vont récolter de tout ça. Mais ce qu'on peut se dire quand même à la fin, c'est que les choses ont commencé à bouger. On voit que hashtag moi aussi, hashtag MeToo, c'est toujours pas fini. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs vagues. Aujourd'hui, en France, il y a des hommes qui commencent à dénoncer les abus sexuels dans le milieu du cinéma. Ce que j'ai aimé dans cet essai, c'est vraiment la rigueur avec laquelle elle a été écrite. Évidemment, c'est une journaliste. La richesse, mais aussi l'aspect vraiment très, très documenté. On parle d'émotions, on parle de ressentis, mais on reste quand même pas mal sur le factuel, sur ce qui s'est vraiment passé, sur ce qui a pu être corroboré. Il n'y a pas de camp qui est choisi, même si quand on lit qu'on est une femme, on se dit quand même qu'on a le camp de la victime, mais ça met en lumière en fait des faits qui ont été vérifiés et puis qui s'appuient aussi sur des données qui existent depuis longtemps, mais dont on ne parle pas quand on parle d'abus et de violences sexistes et sexuelles. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial comme essai. J'ai trouvé que c'était un bon rappel des faits. Moi, je suis arrivée au Québec en 2017, donc il y a des choses que je n'avais pas vraiment suivies. Donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Puis ça a été des rappels aussi sur des choses qu'on a vues après 2018, 2019, 2020. En gros, là, on parle de consentement. On parle du droit à la justice pour les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Le deuxième essai, c'est un espèce d'essai autobiographique de Anne Antané-Capèche, qui est une militante et une autrice innue, qui est née en 1926 et qui est décédée en 2004. C'est la première femme autochtone à avoir publié un livre en français, mais aussi en Innu-Aimun, donc la langue de la nation innue, au Canada. Elle est née puis elle a grandi en territoire, donc pas du tout en ville comme aujourd'hui. Puis elle a reçu une éducation qui est traditionnelle et elle n'a pas été scolarisée. À l'époque, il n'y avait pas encore les écoles et tout ça. En 1976, elle publie cet essai dans lequel elle raconte les conséquences de la colonisation. Elle raconte son histoire, comment en 1953, le gouvernement s'est emparé des terres de sa famille, comment est-ce que sa vie a basculé à ce moment-là. Puis elle décide donc d'utiliser un instrument, l'instrument des Blancs, le savoir des Blancs, c'est l'écriture. Et puis ce qu'il y a de bien avec l'écriture, c'est que ça laisse des traces. Oui. Et donc c'est vraiment un médium qui, je pense, a été vraiment très intelligemment utilisé par elle. Donc, elle raconte le fonctionnement du système colonial dans le nord du Québec, puisque c'est là qu'elle vit, la destruction du territoire, la destruction de la culture, la destruction de la structure sociale, avec notamment la place des femmes, qui n'est pas vraiment celle qu'on connaît aujourd'hui dans les communautés autochtones. Elle raconte les pensionnats, la réécriture de l'histoire, l'invention, la création de clichés. Vous savez, les trucs qu'on a vus avec toutes les personnes qu'on voit avec des vêtements soi-disant traditionnels, des plumes et tout ça, ça ne vient pas du Québec, forcément. Elle raconte le racisme, les violences policières, les mensonges du gouvernement, le mépris à l'égard des personnes autochtones. Mmh. Et puis, elle raconte aussi la création de la honte chez les Innus face à ce qu'on appelle le progrès, puisqu'ils sont censés être des personnes arriérées, alors que les colons européens ont amené beaucoup de choses à la civilisation et le progrès. Donc moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé découvrir. C'est une réédition de Naomi Fontaine qui est parue en 2019 chez Mémoire d'Encrier. C'est écrit en deux langues. Donc sur la page de gauche, on a l'Innu-Aimun. Sur la page de droite, on a le français. Et en fait, c'est une façon pour Naomi Fontaine de permettre à la jeune génération de se réapproprier sa langue, de se l'approprier, puisque les langues autochtones sont en déclin. Mais c'est aussi pour nous un accès à cette histoire à laquelle on n'a pas vraiment accès parce qu'on ne la raconte pas. Quand on arrive au Québec ou même quand on a grandi ici, on nous raconte l'histoire des vainqueurs, mais on ne raconte pas l'histoire des vaincus. Donc c'est vraiment je trouvais que c'était vraiment une super publication. Et puis ça tombe bien aussi parce que le mois de mars, c'est le mois de l'histoire des langues autochtones, le mois des langues autochtones au Québec. Je trouve que c'est un beau livre à lire en fait, d'une manière générale pour la culture générale, mais aussi en ce mois de mars.
Oui.
Le troisième livre, c'est Empreinte de résistance de Alexandra Pierre. Il est paru chez Remue Ménage en 2021. Puis je n'ai pas donné les dates de parution ni les maisons d'édition. Je suis désolée tout à l'heure.
On t'excuse.
Donc Alexandra Pierre, c'est une travailleuse communautaire, militante antiraciste et féministe québécoise d'origine haïtienne. Son livre, il sort en 2021, mais en fait, elle commence la rédaction avant la pandémie. Puis c'est important, en fait, quand on lit le livre, de se rendre compte que tout le travail a été fait quand même avant la pandémie. Alexandra Pierre, elle s'entretient donc avec 9 femmes qui sont noires, autochtones, sud-asiatiques, asiatiques. Elles sont musulmanes, elles sont nées au Québec ou pas. Mais en tout cas, c'est toutes des personnes qui sont engagées et qui abordent des sujets comme le racisme, l'islamophobie, la décolonisation, la relation aux femmes autochtones, la relation au premier peuple d'une manière générale, la maternité, la justice reproductive, l'environnement, enfin plein de choses pour lesquelles on s'engage, plein de gens s'engagent aujourd'hui. Mais c'est un essai en fait qui est sur la convergence des luttes féministes au Québec où les histoires de ces femmes, elles, en fait, elles prennent racine dans l'histoire coloniale de chacune d'elles, puisqu'elles viennent de deux pays différents. Et elle explique aussi les répercussions que ça a aujourd'hui, puisque c'est toujours pas fini, contrairement à ce que les gens pensent, la colonisation n'est pas terminée. Donc Alexandra Pierre, elle démontre très bien comment ces luttes, en fait, elles se détachent des luttes, ou de la lutte du féminisme blanc, qui est encore court au Québec, et qui les ignore, alors que toutes ces autres luttes de femmes racisées, en fait, elles convergent entre elles. Donc c'est un essai aussi sur la filiation, parce que l'engagement de ces femmes, qui parlent, ces 9 femmes, en fait, il prend naissance au-delà de l'histoire de la colonisation, mais dans des histoires familiales. Donc, elles racontent comment est-ce qu'elles ont vu leur mère, leur grand-mère s'engager, comment est-ce qu'aujourd'hui, ça les inspire, puis comment est-ce qu'elles elles continuent, en fait, la lutte, qu'elles soient nées au Québec ou pas. Donc, c'est des témoignages qui sont à la fois intimes et politiques. Puis c'est évident que ce soit politique, lié, en fait. Et vraiment, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment génial. Quand on s'intéresse aux résistances des femmes racisées, puis aux diverses oppressions dont elles sont l'objet, quand on s'intéresse à l'intersectionnalité, moi, j'ai trouvé ça... J'étais en train de me dire, oh mon Dieu, un livre intelligent, ça fait tellement de bien de temps en temps. Et on découvre vraiment à des femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit aussi à des événements dans les milieux militants. Et ce qu'il y avait aussi d'intéressant, c'est que chaque femme a un portrait dessiné par une artiste atikamekw qui s'appelle Eru Oma Awashish. Puis si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ses œuvres. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai acheté une et franchement, j'adore. Donc, c'est un livre dans lequel on apprend beaucoup, on réfléchit beaucoup. Puis ça fait vraiment du bien de lire des choses sur des femmes qui ne sont pas tout le temps à la télé, qu'on ne voit pas dans les médias, mais qui sont quand même des femmes inspirantes et intelligentes. Puis le quatrième, c'est un roman, parce qu'on ne peut pas faire que des essais. Il y a des gens qui n'aiment pas les essais. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas les essais. C'est La fille d'elle-même. C'est Gabrielle Bouliane Tremblay. Il est sorti en 2021 chez les Marchands de Feuilles. C'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. Moi, le titre, il m'a attirée dès que je l'ai vu. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, la fille d'elle-même? Est-ce qu'elle rejette sa famille? Est-ce qu'elle est rejetée par sa famille? Est-ce qu'il y a des gens qui la rejettent? Mais en fait, c'est l'histoire de la naissance d'une fille. Quand elle était petite, on lui disait qu'elle était une fille manquée parce qu'elle préférait jouer avec les filles de sa classe, elle préférait jouer à la poupée, elle préférait le personnage de Peach quand elle jouait à Mario avec son frère. Puis son père lui disait tout le temps qu'il avait 2 fils et pas un fils et une fille. Bon, en gros, il n'y a pas grand monde qui la voit. Puis un jour, ses parents se séparent, elle va vivre chez une cousine ou en tout cas un parent. Et elle découvre sa féminité, puis son rapport à la féminité, mais dans un espace qui cette fois est sécuritaire. Elle essaye des chaussures, elle essaye des robes, elle essaye du maquillage. Puis il n'y a personne en fait pour lui reprocher de faire ce qu'elle est en train de faire. On la laisse tranquille. Puis heureusement, il y a une personne qui la voit depuis le départ, c'est sa grand-mère. Puis heureusement qu'elle est là, cette grand-mère, parce qu'elle lui apporte l'amour, le soutien dont elle a besoin. Elle vient à des moments où vraiment sa petite fille a besoin d'elle. Puis il y a un moment où il faut partir à la ville pour faire des études et aussi pour travailler. Donc la fille, elle part, puis elle découvre des gens comme elle. Elle découvre le milieu queer, elle découvre des gens qui lui ressemblent, elle s'assume de plus en plus en tant que femme. Malheureusement, ce qui vient aussi avec ça, c'est l'incompréhension des autres. C'est aussi la discrimination, puis c'est aussi la violence. Ah. Donc en fait, c'est une autofiction de Gabrielle Bouliane Tremblay. C'est une actrice, une écrivaine, puis une poétesse québécoise. Et puis dans ce premier roman que j'ai trouvé magnifique, malgré toute la douleur et la détresse dont elle parle dedans, c'est que en fait c'est aussi le parcours d'une femme trans qui se bat pour être elle-même, parce qu'elle a le droit d'être elle-même. Puis j'ai choisi de terminer cette chronique avec ce livre parce que les femmes trans ne sont pas considérées comme des femmes aujourd'hui. On le voit avec la montée de la transphobie, des LGBT-phobie. C'est très, très présent au Québec, même si on n'aime pas le dire, mais c'est vraiment présent au Québec. Puis c'est aussi la transidentité, elle est reconnue par la loi fédérale, elle est reconnue par la loi provinciale. Donc, en fait, j'ai envie de dire, les femmes trans, elles ont juste le droit d'exister. Puis c'est le premier droit qu'on devrait leur reconnaître aujourd'hui, pendant ce mois de l'histoire des femmes.
Exactement. Merci beaucoup. On t'applaudit toutes autour de la table. Merci beaucoup, Jessica, pour une liste de livres qui va vraiment nous permettre de prolonger pour quelques temps encore la célébration de cette journée internationale des droits des femmes. On va faire une nouvelle petite pause avec ma chanson préférée de 2023, On My Mama de Victoria Monet, qui a enfin ses Grammy Awards. Pour ça aussi, on applaudit. Puis on se retrouve juste après pour parler d'un syndrome que tout le monde a, mais dont personne ne parle.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Rejoignez-nous au coin Sainte-Catherine-Saint-Loup à 19h tous les samedis pour un début de soirée riche en rire, réflexions et découvertes. De Montréal jusqu'au lac Saint-Jean, Catherine Kennel, Lou Deneau ainsi que leurs collaborateurs vous font revisiter les événements marquants de la semaine avec humour, philosophie, cinéma et féminisme.
Pour conclure en beauté, un invité spécial se joint à nous à chaque semaine. La fièvre du samedi soir, elle est chez CIBL 101.5 où l'actualité se décortique sous toutes ses facettes.
Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire à l'entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire à l'entrade, le dimanche dès 17h à CIBL.
She get it from her mama. I'ma say you fucking right. Body rude is unpolite. Don't be in a humble type. Tell me, is you down? Cause I'm trying to go up tonight. Hoes and hoochies left and right. I just wanna live in a fantasy. I think we deserve it right. Top all the memories I've ever made in my life. Permanent ecstasy. The ladies is pimps tonight. Good, put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my bag, but you could. I look fly, I look too good. Grandma with a peppermint. They say, oh, she smell good. That's just cause I'm heaven sent. Sex game goes stupid. Stopping like a toothpick. Man, I tell the truth. Your opinion is irrelevant. But I know you think I'm fine. Might be too fine to hit it from behind. Reflection in the mirror, don't decline. I can't even lie, lie, lie. I put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my bag, but you could. I look fly, I look too good. Put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my bag, but you could. I look fly, I look too good.
On a On a passé 2 heures ensemble. Je sens qu'il y a, un petit lien d'intimité qui s'est noué entre nous. Donc, je vais être honnête. 5 minutes avant de prendre le micro pour commencer l'émission, tu sais, on se disait bonjour avec Nadia, avec Marilyn. Mais j'étais pas bien. Je réprimais ma 5e crise d'anxiété depuis peut-être 24 heures. Parce que je vais l'avouer, il commence à diminuer, mais j'avais le syndrome de l'imposteur. Donc, vous savez, cette petite voix qui vous convainc que vous n'êtes pas à votre place, alors que vous êtes parfaitement qualifié pour l'être, ou que vous voulez la place de quelqu'un d'autre, alors que votre nom est écrit sur la chaise que vous venez de prendre. Donc, ça, c'est le syndrome de l'imposteur, et c'est aussi le sujet principal d'un tout nouveau podcast nommé « T'inquiète maman, je suis bientôt riche ». Il est réalisé par la journaliste Océane Kouassi. Et vraiment, c'est un projet qui a tout de suite résonné en moi parce que je me suis tout simplement reconnue dedans. On en écoute un petit extrait.
Une fois, quand j'étais petite, j'ai dit à ma mère que je sauverais l'honneur de la famille. Un bac plus 5 plus tard, je suis presque convaincante, mais pas mon compte en banque. J'ai rencontré Madame l'imposteur il y a 3 ans. Elle s'est tapée l'incruste chez moi et m'a endormie avec ses discours jusqu'à ce que je lui dise.
Ça va pas, qu'est-ce que tu racontes, toi ?
Et le reste appartient à l'histoire. À toi qui souhaites savoir comment j'ai surmonté mon syndrome de l'imposteur, écoute mon podcast « T'inquiète maman, je suis bientôt riche », disponible maintenant.
Et donc, pour cette émission 100% féminine, je tenais à discuter de ce projet de podcast, mais surtout, je voulais discuter du syndrome de l'imposteur avec Océane Kouassi, parce que je pense qu'en tant que femme, on a toutes senti un jour qu'on avait ce petit sentiment d'inadéquation, d'illégitimité, en exerçant telle profession, en étant dans telle place. Donc, je voulais vraiment en discuter avec elle, et je vous laisse écouter cette belle discussion qu'on a eue plus tôt dans la semaine. T'inquiète maman, je suis bientôt riche. C'est un podcast qui parle de syndrome de l'imposteur. C'est quoi un syndrome de l'imposteur ?
Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement le sentiment de ne pas se sentir méritant. En soi, ça peut être notre situation professionnelle, notre situation familiale même ou sociale. En fait, la personne qui expérimente ce sentiment d'imposture, on l'appelle aussi comme ça, pense ne pas mériter sa place. Et pense surtout en fait qu'elle serait en train d'usurper la place de quelqu'un qui serait plus méritant qu'elle.
Et est-ce que vous êtes déjà sentie un jour non méritante de votre place ?
Oui, jusqu'à ce que j'en ai fait un podcast. Moi, ça s'est manifesté du coup durant mes 2 dernières années d'études, mes 2 dernières années de maîtrise en communication publique et journalisme international. L'élément déclencheur, parce que c'est difficile de remonter à chaque fois, mais je dirais que l'élément déclencheur, ça a été quand je suivais mon premier cours de master. Donc, c'était pendant la période Covid. On était tous à distance. On découvre du coup sa classe, ses professeurs, son environnement. On est 7. Et les autres étaient plus âgés que moi. Ils avaient déjà de l'expérience dans le journalisme. C'est-à-dire que moi, je sortais de quelque chose de très théorique et les travaux que j'avais faits étaient dans le cadre scolaire. C'est-à-dire que j'avais jamais vraiment travaillé pour un média ou j'avais jamais fait de stage dans un média. Donc ça m'a un petit peu déstabilisée, on va dire. Donc, c'est vraiment le premier élément. Et puis c'est aussi de se rendre compte de toute la dimension du métier de journalisme. En fait, il faut avoir une certaine assurance, il faut avoir une certaine crédibilité pour décrypter l'actualité. Tout ça, en fait, j'avais l'impression que je ne l'avais pas forcément. Donc je me mettais beaucoup en retrait, je ne parlais pas beaucoup, ce qui a été très compliqué puisque, comme je l'ai expliqué, on était une cohorte de 7 personnes et il est plus facile de se dissimuler quand on est une quarantaine, une cinquantaine. Ce n'est pas vraiment des cours magistraux, c'est tout le monde un petit peu apporte sa pierre à l'édifice. Et ben moi j'avais un petit peu de mal à apporter justement ma pierre à l'édifice et c'était assez compliqué. Je pensais que ça allait être un sentiment passager et il s'avère que ça a duré en fait jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à l'obtention de mon diplôme.
Et j'imagine que ça s'est empiré avec le temps, donc je me demande, entre cet état-là d'imposture et la volonté de faire un podcast, ça a été quoi le déclic ?
Le déclic, moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien écrire ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai dans la tête. Donc ça a commencé avec des notes que j'écrivais sur mon téléphone. J'ai commencé à écrire mes questionnements, mes doutes par rapport au futur. Et ça a duré pendant 1 ou 2 mois. Et puis, je me suis toujours dit que plus tard, quand je serai avancée dans ma carrière, sûrement que je parlerai du syndrome de l'imposteur. Parce que, encore une fois, cette époque-là, j'étais assez timide en fait d'en parler. Il y avait une certaine honte, une culpabilité qui m'environnait, donc je voulais pas forcément en parler. Donc je me suis dit, bah c'est sûr que je vais en parler plus tard. Et quelques temps après, je me dis, mais pourquoi je repousse toujours tout à demain? L'expérience est encore fraîche en moi, si je peux dire, et j'ai de quoi en faire quelque chose. Donc pourquoi pas? Et c'est là que l'idée du podcast m'est venue.
Et d'un podcast qui s'appelle T'inquiète maman, je suis bientôt riche. En fait, ça me fait vraiment penser à un gimmick de rap, parce que souvent c'est un peu comme une promesse qu'on fait à ses parents, à sa famille, à ses frères et sœurs, que t'inquiète, je vais réussir, je vais être riche, tu vas être fière de moi. Est-ce que c'est ce sentiment-là que vous vouliez transmettre avec ce titre?
C'est tout à fait ça. Franchement, vous avez bien décrit le sentiment, tout le folklore autour. Moi, il faut savoir que je suis la cadette d'une fratrie de 4 enfants et je suis la première à avoir entamé et terminé des études longues. Même si ce n'est pas clairement dit, mais dans l'inconscient, dans la façon d'agir, je pense que voilà, ma famille se dit « Ah, elle va faire quelque chose de différent. » Et ça va aussi profiter à la famille. Je me suis attribué un devoir, celui de rendre fière ma mère et de, surtout de lui dire « Ok, tu es passée par des épreuves difficiles, donc... avec tout ce que tu m'as donné, je vais en faire quelque chose de bien et surtout quelque chose de mieux, en fait. Parce que, voilà, on aspire à mieux. Et pour le contexte, il faut savoir que je suis issue de parents immigrés en France. Donc, ma famille est originaire de Côte d'Ivoire. Et ma mère, durant sa vingtaine, est venue s'installer en France. Et elle a commencé à construire une vie. Moi, mon rôle, du coup, c'est vraiment sortir de notre milieu social, aspirer plus haut. En sortant du master, j'ai encore ce sentiment en moi où je me dis il y a quelque chose qui n'était pas normal. Je me suis toujours sentie en inadéquation, mais en même temps, il faut que je poursuive ma promesse en fait, qui est de faire mieux avec les outils que ma mère m'a donnés. Donc je m'en souviens quand j'écrivais, mais du coup les notes sur mon téléphone dont je vous parlais à l'instant, j'étais dans un tourbillon de pensées et je me disais ah oui ok je ressens ça, mais il y a aussi maman. Et je sais pas, il y a une pensée qui vient dans mon esprit où je dis ok t'inquiète maman, je suis bientôt riche.
C'est ça, et le reste a fait l'histoire. Moi quand j'entends syndrome de l'imposteur, je peux pas m'empêcher de penser au fait d'être une femme dans une société d'hommes finalement, qui lui mettra des bâtons dans les roues. Est-ce que le fait d'être une femme exacerbe ce syndrome de l'imposteur selon vous?
Alors c'est une très bonne question et je dirais que oui. Imaginons qu'une femme arrive dans un milieu, dans une entreprise d'hommes ou exerce une fonction qui a longtemps été considérée comme une fonction qui devrait être exercée par un homme, eh bien oui, le sentiment d'imposture, le syndrome de l'imposteur peut se créer en fait.
On dit souvent que les personnes noires doivent travailler 5 fois plus que les personnes blanches pour atteindre le même niveau de reconnaissance. Et moi, j'y voyais une forme de syndrome de l'imposteur finalement, parce que c'est comme si la même chose devait être présentée avec beaucoup plus d'emphase et beaucoup plus de force, et vraiment on cogne aux portes alors que d'autres personnes toquent et puis on leur ouvre. J'y vois une forme de syndrome de l'imposteur. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage du docteur en psychologie Kevin Chassangre, il parle de messages intériorisés durant l'enfance qui pousseraient en fait à développer le syndrome de l'imposteur plus tard. Alors, il ne cite pas les familles racisées, par exemple, qui mettraient la pression à un enfant en lui disant bah, « Tu sais, tu dois faire beaucoup mieux que tes compères parce que vu ta couleur, vu ton histoire, vu ta culture, il ne fait pas allusion à ça. » Mais bien évidemment que ça aurait un certain impact. J'ai déjà entendu ce genre de discours d'un professeur au lycée, par exemple, qui pouvait nous reprendre, nous et d'autres élèves noirs, en disant bah, « Vous, soyez beaucoup plus rigoureux, ne parlez pas en classe, ne bavardez pas, ne chahutez pas, parce que voilà, vous êtes noirs, c'est ce qu'il nous disait, vous êtes noirs, donc vous aurez toujours beaucoup plus à prouver. » Et je l'ai souvent entendu. Donc, j'ai peut-être intériorisé aussi cette façon de penser.
Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne croient pas au syndrome de l'imposteur? Donc, ils vous écoutent parler, puis ils vous répondent « Ouais, mais c'est peut-être dans votre tête. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours eu foi en mes capacités, ou alors, même quand j'avais pas foi en mes capacités, c'était pas un syndrome de l'imposteur, c'était juste une voix qui n'était pas faite pour moi. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste une nouveauté, vous inventez des mots à chaque matin. » Bref, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là?
Premièrement, j'accepte. Quand j'étais en train de produire le podcast, je me suis rendu compte que cette notion pouvait paraître totalement absurde pour une personne qui ne l'a jamais vécu ou qui n'a peut-être personne dans son entourage aussi qui l'a vécu. Parce que quelqu'un que vous venez de décrire, par exemple, qui a toujours fait les choses sans se poser de questions, qui n'a jamais douté en ses capacités, qui discute avec une personne qui s'en sort très bien dans la vie, mais a le syndrome de l'imposteur, l'autre personne pourrait se dire « mais qu'est-ce qu'elle me raconte, en fait ?» Tous les faits sont là. Les personnes qui font le syndrome de l'imposteur vraiment pourraient être vues comme...
comme un caprice, finalement.
Exactement, c'est le mot que je cherchais. Ça peut être vu comme un caprice, ça peut être vu comme... Enfin, la notion peut paraître totalement absurde. Maintenant, je n'ai pas fait ce podcast pour eux. Je l'ai fait pour, justement, en fait, des personnes qui l'ont expérimenté ou qui l'expérimentent encore, donc du coup, qui sont comme dans une espèce de prison mentale, qui voudraient s'en sortir. Et par expérience, je sais qu'on n'en parle pas, en fait. J'ai remarqué, même les personnes que j'ai interviewées m'ont dit qu'autour d'eux, ça a pris du temps, en fait, avant d'en parler à leur entourage. Donc voilà, je l'ai fait pour ces personnes-là aussi, qui sont dans leur coin, qui ne parlent pas, parce que, justement, on leur dirait « de quoi tu te plains ?» Tu as cette super position, tu as eu cette super promotion, tout a toujours réussi. Pourquoi tu as le syndrome de l'imposteur, en fait ? Donc, ces personnes qui se taisent parce qu'elles craindraient d'entendre ce genre de choses. Donc, voilà, je respecte l'opinion de chacun. Je comprends que ça puisse paraître absurde, mais simplement, voilà, c'est pas la cible. C'est pas la cible, mais s'ils veulent en apprendre plus, je pense que ce serait bénéfique parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe dans la vie. Et c'est toujours bien d'avoir des outils pour aider d'autres qui passeraient par des moments difficiles, tout simplement.
Vous m'avez dit que vous aviez gardé la production de ce podcast secrète de A jusqu'à Z. Personne n'était au courant que vous travailliez sur un projet. Mais les gens savaient que vous travailliez sur un projet, mais ne connaissent pas la nature de ce projet. Et vous l'avez révélé en grande pompe lors d'une cérémonie qui, je pense, s'est très bien passée. Pourquoi ce secret ? Est-ce que c'était un syndrome de l'imposteur, finalement ? Est-ce que vous aviez peur que les gens ne vous considèrent pas comme légitime de porter un tel projet ? Quelle est la raison de ce voile de mystère ?
Alors, il y a une constellation de raisons, je dirais. Je crois que quand on démarre un projet, quelque chose qui est nouveau, qui est né, qui n'est pas encore sorti, c'est important de le conserver. C'est comme voilà, une femme enceinte, par exemple, qui attend 3 mois avant de révéler qu'elle est enceinte. Moi, je dis ça. C'est...
Non, bon, on comprend l'image.
Ouais, on comprend. Voilà. Donc, je voulais un petit peu aussi me donner le temps de me confronter à mes sentiments. Et je voulais pas avoir tout un mélange d'avis et de pensées qui viendraient un petit peu perturber. Et voilà, je dirais que c'était ça les raisons qui m'ont poussé à le garder secret.
La dernière question, et non des moindres, est-ce que vous êtes guérie de votre syndrome de l'imposteur ? Est-ce qu'on en guérit, finalement ? Ou est-ce qu'on développe des outils pour le vaincre dès qu'on voit qu'il pointe le bout de son nez ?
Je dirais qu'aujourd'hui, je suis guérie. Je dirais ça. Mais je dirais pas qu'à un certain moment donné de ma vie, je ne vais pas ressentir certains comme un sentiment d'illégitimité, parce que ouais, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Simplement, le fait d'avoir identifier ce que c'était, et ben je pourrais vite contre-attaquer ces pensées. Ça, c'est sûr, parce que je me dis toujours que tant qu'on ne connaît pas son ennemi, on ne peut pas se battre.
Tant qu'on ne connaît pas son ennemi, on ne peut pas se battre. On ne peut pas le battre exactement. Et si votre ennemi s'appelle, par hasard, syndrome de l'imposteur, sachez que les 2 premiers épisodes du podcast « T'inquiète maman, je suis bientôt riche » d'Océane Kouassi sont disponibles sur Spotify et aussi sur YouTube. Et c'est sur cette note d'espoir que se clôture notre édition 100% féminine de Néo-Québec, qui a vraiment, mais vraiment été un plaisir à animer. Merci beaucoup à vous toutes. Je ne sais pas si chacune a un petit mot de la fin à nous donner.
Inspirante, je pense. Forte. Un mot. Bravo, Malia.
Deux mots.
Bravo, oh bravo, bravo. Merci, merci. Incroyable. Bon. Merci.
Pour beaucoup de compliments.
Moi, j'irais avec le sentiment d'imposteur. En fait, il n'est pas pour nous. On est légitime dans tout ce qu'on fait, pour toujours. Puis, il faut s'encourager chacune. Puis, j'ai été vraiment honorée d'être avec toutes les femmes ici. C'était vraiment, vraiment inspirant.
Merci beaucoup.
Ah non, mais moi, je vais redire ce que j'ai dit pendant notre petite pause. Moi, je suis comme Rihanna. Fake it until you make it. It's either you cry or you fake it. I fake it. I'm okay. I'm fine. I'm smiling. I'm great. Genre, je souris, ça va bien. Et puis, on continue. On est là. On prend notre espace. On prend l'espace. Exactement. C'est à nous de prendre l'espace. Prenons-le. Arrêtons de ne pas le prendre. Puis sinon, douceur. T'as tellement une belle voix, Malia. Je suis comme, douceur. Merci. Moi, j'envoie de la douceur. Ta petite douceur.
Merci beaucoup. Et toi, Jessica?
Bah, bravo à toi, vraiment. Enfin, moi, j'avais pas de doute sur le fait que ça allait vraiment bien se passer avec toi aujourd'hui. Donc, syndrome de l'imposteur, va-t'en. Bon. Et puis, je suis vraiment très contente de vous avoir rencontré, vous, aujourd'hui. Et puis, au plaisir de vous revoir.
Merci beaucoup à vous. Merci, je vais le faire de façon chronologique. Merci à notre première invitée, Nadia Louis Desmarchais, réalisatrice de la série web Les Météorites, disponible sur Tout TV. Vous n'avez aucune excuse, allez l'écouter. Merci à la comédienne et dramaturge Marilyn Chéry pour cette discussion vraiment, vraiment édifiante autour d'Aphrodisiaque, mais surtout autour du cheveu noir. Merci à toi, Palina, qui a participé, qui a beaucoup contribué à cette belle discussion. Merci Jessica pour tes pertinentes recommandations littéraires. On en parlait un peu en off, on se jetait un peu ta pile en se disant avec quel livre on va repartir chacune. Merci pour cette liste. Merci Léo pour l'impeccable mise en onde de cette émission. Et le meilleur pour la fin, un grand merci à Cyril pour m'avoir cédé le micro pour cette édition. Promis, je remettrai les anciens verrous aux portes d'ici la semaine prochaine. On verra. On n'est pas encore, on verra. Et merci à vous tous et surtout à vous toutes qui nous écoutez depuis chez vous, depuis votre voiture, depuis votre casque, depuis vos écouteurs. C'était Malia Kounkou pour Néo Québec et je vous souhaite une très bonne semaine.
Merci.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco-Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. La promotion de la langue française a toujours été une préoccupation à Éco-Montréal. C'est pourquoi le journal a lancé le concours « Le français, la langue qu'on aime » en collaboration avec le ministère de la langue française et le CSSDM pour promouvoir le français auprès d'élèves de 3e secondaire en leur permettant de s'exprimer sur le sujet. Les trois finalistes verront leur texte publié dans le journal. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous!
Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18 heures, en rediffusion mercredi 14 heures à CIBL.
Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie Douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie Douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la musique.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'affaire et dans le trad de cette semaine. Et on commence ça avec une nouveauté des dernières semaines. Les filles du roi, la Matawin, Ré la Cécile. On les reçoit d'ailleurs la semaine prochaine.